Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une déambulation dans l'exposition qui est dans la salle de l'atrium du Carré d'Art, donc c'est-à-dire au moins un, qui a été inaugurée le 14 avril, qui dure jusqu'au 11 juillet et peut-être prolongée. André Chanson, un Nîmois, peut-être pas assez connu, et lors du vernissage, il y avait un monde fou, donc on espère que cela va attirer beaucoup de monde. Et nous avons avec nous Eddy Noblet, bonjour.
Bonjour Sylviane.
Qui est le directeur adjoint responsable des fonds patrimoniaux et conservateur d'État des bibliothèques. Que de titres. Qui est arrivé il y a l'été 24.
Absolument.
Voilà. Et qui a pris à bras le corps, en fait, ce projet, puisqu'il y avait eu un don assez exceptionnel. Parlez-nous d'abord de ce don des documents sur André Chanson.
Alors absolument. En fait, j'ai eu le plaisir d'arriver à Nîmes il y a à peu près un an et demi. Et j'ai rejoint l'équipe des bibliothèques de Nîmes comme directeur adjoint responsable des fonds patrimoniaux, comme vous l'avez indiqué. Et parmi les nombreux dossiers en cours, il y avait la réception d'un don offert par les petits-enfants de André Chanson, donc Catherine, Nicolas et François Vell.
Deux étaient présents lors du vernissage.
Absolument. Et ce don, en fait, était conséquent. Il est arrivé, en réalité, en deux temps. Une première partie en 2021 par Frédéric Hébrard, la fille d'André Chanson. Et puis après, à l'été 2024, comme je l'ai indiqué, par les petits-enfants. Et c'était des dizaines de cartons remplis à ras-bord de feuillets, de manuscrits, de lettres. C'est tous les courriers, toute la correspondance d'André Chanson avec des auteurs aussi divers que Martin Dugard, que Romain Rolland ou encore Kawabata. Et il y avait aussi de la photographie et des dessins.
Lors du vernissage, vous avez dit que ça faisait 500 tonnes.
Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'un des ayants droit. Parce que pour ma part, je n'ai pas pesé.
Ah bon.
Mais en tout cas, moi, j'ai la vision du bibliothécaire, si vous voulez. C'est-à-dire, je vois la place que ça prend dans les magasins sur les étagères. Et c'est assez conséquent. Donc, il a fallu en fait cataloguer tout ça. Alors ça, c'est... je ne vais pas rentrer dans le détail.
C'est le travail des bibliothécaires.
C'est voilà. Ça, c'est un vrai travail de l'ombre. C'est un travail très patient qui a été mené par deux collègues du patrimoine, à savoir Manon Durand et Guillaume Bopp. Et ces deux collaborateurs ont fait un catalogage patient de l'ensemble de ce fonds. Qu'est-ce qu'on entend par catalogage? C'est d'abord un tri, c'est d'abord une organisation, une arborescence de tous ces documents qu'il faut trier, classer et puis signaler en ligne sur un catalogue. Et en l'occurrence, c'est mis en ligne sur le catalogue collectif de France, ce qui est porté par la Bibliothèque nationale de France, ce qui lui donne une visibilité nationale et internationale.
Oui, je crois que c'est Valérie Travier qui disait que 8 jours après, des Japonais vous contactaient.
Absolument.
C'est incroyable, ça.
Valérie en a parlé. Monsieur le maire l'a aussi indiqué dans son discours. Effectivement, quelques jours après la mise en ligne de ce fonds, un chercheur japonais nous contactait afin de savoir si nous avions de la correspondance entre Chanson et Kawabata, ancien prix Nobel de littérature.
Donc ça, c'était la première étape, en fait, la réception, le catalogage. Et vous aviez 4 grands projets, donc l'exposition.
C'est ça. En fait, nous sommes assez gourmands ou gourmets, je ne sais pas. C'est-à-dire
vous
que
vous voyez grand.
C'est gentil. Mais en tout cas, l'idée était de valoriser ce fonds. C'est comme une sorte de promesse que nous faisons aux ayants droit. Il nous donne quelque chose de précieux. Eh bien, l'idée étant de le faire partager.
Oui.
Et nous ne sommes pas seulement partis sur une exposition, ça aurait été suffisant.
C'est déjà bien.
Nous sommes partis en fait sur une exposition, sur la publication d'un livre, sur un colloque, et puis nous avons aussi créé une vidéo maison.
Qui est dans l'exposition.
Qui est dans l'exposition, absolument.
Qui dure une dizaine de minutes.
Absolument.
Vous conseillez de l'avoir peut-être en premier ou au contraire de l'avoir en résumé à la fin?
Alors, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, moi, je préfère l'avoir en résumé à la fin.
Voilà. D'accord.
C'est un temps de pause, il y a un banc, il y a des casques, il y a une voix off qui nous raconte en fait la vie et l'œuvre de chansons qui est résumée en 10 minutes.
C'est Catherine Veil, petite
fille. C'est Catherine Veil qui a prêté sa voix, qui a eu cette gentillesse-là. Catherine a en plus une très belle voix et une diction qui porte comme ça un récit.
Et moi qui connaissais Frédéric Hébrard, que j'avais interviewé, je trouvais que parfois il y avait des intonations qui ressemblaient à celles de sa maman. C'était très, très, très émouvant. Alors, le livre s'appelle « Résister », mais l'exposition, on n'a même pas dit son titre, en fait.
Tout à fait. Alors, en fait, c'est moi qui ai proposé et un peu imposé le nom de l'exposition, à la lecture, à la lecture du Puits des Miracles. Mmh. Il y a une vraie réflexion sur l'engagement dans le Puits des Miracles, qui est un roman qui a été réédité récemment. C'est un roman d'après-guerre, qui a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale par Chanson, mais qui a été publié après-guerre. Et qui a été réédité tout récemment par les éditions Alcide. Et le Puits des Miracles, c'est une réflexion sur l'engagement, et il y a cette question lancinante qui revient chez le narrateur, qui pose cette question, quels hommes sommes-nous devenus ? Et ce qui m'est apparu, en fait, à la lecture et à l'étude du fond chanson d'une manière générale, c'était qu'il y avait quelque chose d'universel et d'intemporel à ça. C'est-à-dire que les questions qu'il posait déjà à l'époque, aujourd'hui,
on peut se les poser encore.
Absolument.
Et peut-être d'autant plus, vu le contexte mondial.
Absolument. Absolument, c'est exactement ça. Donc, le nom de l'exposition, c'est « Quels hommes sommes-nous devenus ?» André Chanson, itinéraire d'un humaniste au XXe siècle. Pour le livre, parce qu'en fait, si vous voulez, le chemin de fer thématique de l'exposition, le livre le reprend, ce chemin de fer.
Oui. Mmh.
Le livre étant le reflet, mais aussi un complément d'informations de ce que vous trouverez dans l'exposition. Et le livre, nous le devons... il a été soutenu par le ministère de la Culture. Je renouvelle mes remerciements au ministère, sans lequel, en fait, il n'aurait peut-être pas pu voir le jour. Et nous le devons aussi à l'action d'une petite équipe et aussi au courage de Yann Cruvelier, l'éditeur des éditions Alcide, qui a participé, qui l'a soutenu également.
Alors, il y a quatre auteurs. Micheline Cellier, qui est la biographe, on pourrait dire, officielle, qui était là. Patrick Cabanel, qui interviendra lors du colloque. Vous-même, Eddie Noblet et Guillaume Bob, qu'on connaît bien aussi à la radio. Et une très belle préface de Pascal Horry, donc, qui a tout de suite dit oui.
Oui, en fait, j'étais un peu surpris quand je l'ai contacté. Enfin, j'ai été agréablement surpris. Je l'ai contacté, je lui ai proposé de rédiger la préface. Je m'attendais à ne pas avoir de réponse ou une réponse négative, parce que Pascal Horry est un immense historien et il est membre de l'Académie française. Et je me suis dit, il doit être extrêmement pris. J'ai reçu un mail dans la foulée me disant, oui, je vous fais une préface.
Ouais, qui est très belle.
Qui est à la fois personnelle et en même temps, c'est aussi une préface d'historien avec, y a une dimension aussi scientifique derrière.
Qui l'intitule « Entendre sa voix singulière ». Alors, il y aura d'autres émissions avec Catherine Veil et Micheline Cellier. Et dans cette émission, on a mis un petit extrait de la voix d'André Chanson, donc on ne va pas le refaire aujourd'hui. Mais j'aime bien ce titre « Entendre sa voix singulière ». Alors, on suit le livre, on suit l'exposition, l'enfance et la jeunesse, l'engagement intellectuel, l'engagement politique, la guerre, protecteur des arts, honneur, conviction d'un écrivain, rester fidèle. On peut y passer beaucoup de temps parce qu'il y a ce qui est au mur, il y a les photos, mais il y a aussi les vitrines.
Oui.
Et en tant que bibliothèque,
oui.
C'est important de voir ses écrits. Parce qu'on écrit de moins en moins à la main. Et moi, je suis toujours fascinée par ces écritures, le temps que l'on prenait pour écrire. Et c'est des souvenirs palpables, quoi.
Ce que vous dites est très juste et j'en suis d'autant plus agréablement surpris encore une fois que ça marche. C'est-à-dire que nous avons ouvert lors du vernissage.
Les gens se penchent et regardent.
Absolument. Ouais. Et il y a plus de monde que ce à quoi je m'attendais.
Ouais.
Et tant mieux, je m'en réjouis. Et c'est parce que c'est toujours un défi lorsqu'on fait une exposition d'exposer des papiers.
Ouais.
Et donc il faut, en fin de compte, changer les rythmes, trouver une dynamique. Associer, si vous voulez, parce qu'il y a des panneaux avec des textes et aussi des images, et puis montrer, en fait, la matière brute.
Bien sûr.
Les documents de première main.
Mmh.
Et ces documents, en fait, appartiennent aujourd'hui à l'histoire. Ah. Que ce soit les manuscrits de chansons, mais que ce soit des manuscrits médiévaux, etc., que nous conservons à la bibliothèque de Carré d'Art, qui est une des 54 bibliothèques municipales classées en France. Ce sont des documents qui appartiennent aujourd'hui à l'histoire, et nous, notre vocation, c'est d'en prendre soin et de les transmettre, de les valoriser aussi et de les présenter à tous les publics.
Oui, je recommande, enfin, alors dans la journée du patrimoine, il y a des visites organisées, et c'est toujours magnifique, parce que le Carré d'Art, c'est un rez-de-chaussée, et puis plusieurs étages, mais il y a plein d'étages souterrains qui sont des merveilles.
Si on peut faire une parenthèse, effectivement, pour les journées du patrimoine, et en l'occurrence là, ce sera, je crois, le 19 septembre, il y aura encore une visite de la réserve précieuse qui se trouve dans un des souterrains, qui est un endroit très sécurisé, où je montrerai des documents anciens.
Non, mais c'est une visite vraiment à recommander, parce que là, on prend, je dirais, l'histoire, le temps, le passé à bras-le-corps. Et moi, je me dis toujours, dans 100 ans, quand on aura des clés USB, des DVD, on n'aura peut-être pas la même sensation. Quoi.
Alors, on participe aussi à la conservation de ces données numériques. Hein. Oui. On y travaille, moins à Nîmes, parce qu'on n'a pas nécessairement tous les moyens. Mais en tout cas, la Bibliothèque nationale de France, il y a un vrai travail qui est fait sur ces documents numériques. Et pour revenir à Chanson, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que vous verrez, si vous y allez, des manuscrits de chansons, mais aussi sa correspondance, et on voit, c'est une biographie, cette exposition. Oui. On le voit de l'enfance jusqu'à la consécration, et on le voit respecter à la fois ses racines locales, cévenoles, et puis aussi une dimension universelle. Je pense que Micheline Cellier et Catherine Veil parleront de la vie de Chanson.
Il faut acheter le catalogue, le livre qui ne coûte que 18 euros. Ce n'est pas énorme. Et puis, il faut venir à l'exposition. Et puis, il faut venir au colloque dont on parlera dans la deuxième partie. C'est trop vaste. Il y a trop de choses pour évoquer dans une émission.
Si vous le souhaitez.
D'André Chanson.
Oui. Et puis, d'autant que Catherine et Micheline en parleront. Moi, il y a quelque chose qui m'avait surpris. Et c'est ce dont j'ai parlé lors de l'inauguration de l'exposition assez rapidement. C'est à l'étude du fonds Chanson, à l'étude des documents sur Chanson, il y a deux angles d'études qui me sont apparus comme des évidences, à la fois l'humanisme du personnage et de son œuvre, mais aussi une écriture de l'espérance. Et en cette période qui est complexe, en cette période de tension, en cette période de violence, de pessimisme, ça fait du bien.
Oui, on en ressort un peu regardez, je vais dire, avec un espoir, parce qu'on voit cet homme que rien ne prédestinait à une telle notoriété. On voit l'enfant nîmois puis alésien. On voit son mariage, on voit son engagement littéraire. Comment il entre, en fait, dans le cénacle littéraire. C'est pas un labyrinthe, mais on est bien guidé. Hein, on est bien guidé pour aller de place, de salle en salle avec des cloisons. Donc, il y a l'enfance, il y a l'engagement littéraire. Après, il y a la guerre. Oui. C'est vrai que là, on en prend, je dirais, plein la figure. Hein, quand on le voit avec son béret engagé volontaire.
Alors ça, c'est votre perception. Mais ça participe aussi de cette réflexion sur l'engagement. Mm. Et ce qu'on voit avec Chanson, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Lui-même a été effectivement écrivain, essayiste. Il a été conservateur. Il a été soldat, puisqu'il était engagé...
Dans la brigade Alsace-Lorraine.
D'abord, lors de la mobilisation pour la bataille en 1939 et 1940, il a participé aussi à tout cela. Il a été aussi, avec sa femme, à la protection des œuvres du Louvre. Son épouse, Lucie Mazuri, qui était une conservatrice, qui a elle-même travaillé à la protection des œuvres du Louvre en les évacuant pendant la guerre. Il a été dans la Résistance à partir de 1943. Et effectivement, comme vous l'avez dit, au sein de la brigade Alsace-Lorraine avec Malraux, en rejoignant de Delattre de Tassigny à la Première Armée pour la libération de la France.
Quelle vie pour et après, il y a les honneurs académiciens. Donc, il faut vraiment suivre, il ne faut pas le prendre à l'envers. Hein. Je pense qu'il faut vraiment aller d'étape en étape.
Oui, en plus, c'était un bourreau de travail, et puisque à la fois écrivain, mais en plus, il a été le directeur du musée du Petit Palais à Paris. Et quelque chose de très beau aussi par rapport à ça, c'est-à-dire c'est dans l'immédiate après-guerre, la première exposition qu'il organise, c'est d'abord d'exposer des chefs-d'œuvre du Louvre. Et ça fait du bien, en l'occurrence, aux Français, à l'époque, de revoir ces œuvres d'art qui avaient été dissimulées, et certaines d'entre elles ont même pu avoir été spoliées par les nazis. Donc ça faisait du bien. Et deuxième chose, très rapidement, en 1947 puis 1948, en fait, il tend la main à l'ancien ennemi.
Ce qui n'était pas évident. Hein.
Ce qui n'était absolument pas évident. Il leur tend la main pour exposer des trésors des musées de Munich et de Vienne. Et c'est là où on voit comment l'art, en fait, participe à la reconstruction de valeurs post-conflit. Comment une réconciliation est possible aussi grâce aux femmes et aux hommes travaillant sur la culture. Et une culture qui est universelle.
Ce qu'on appelle un humaniste, ou ce que l'on appelle l'humanisme. Alors, on va faire une pause au milieu de cette émission parce que c'est très dense et il faut prendre le temps de suivre cette exposition. Et vous avez choisi, c'est votre choix. Vous avez choisi Arvopart. Pourquoi? Parce que vous aimez.
Parce que j'aime Arvopart.
Ben voilà une très belle raison. Alors, sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Eddy Noblet pour nous parler de l'exposition, du livre, du colloque, de quoi d'autre, de la vidéo. Hein. Venez au Carré d'Art jusqu'au 11 juillet, même si vous pensez que ça sera peut-être un peu prolongé, on verra bien. Puis, dans cette seconde partie, surtout parler de ce colloque qui se tient le 24 et 25 avril dans l'auditorium. Entrée libre. Hein. Et quand on voit la liste des invités, c'est vous qui avez géré ces invitations. Et quand on lit, hein, on va joindre un article écrit sur le site internet pour avoir ce programme. Vous avez choisi des angles. C'est des angles que vous avez choisis. Vous avez choisi les personnes qui étaient capables de s'adapter aux angles que vous vouliez.
Alors oui, effectivement. En fait, j'ai préparé le programme du colloque avec Micheline Cellier, qui est la présidente de l'association des Amis de Chansons. Nous l'avons travaillé ensemble. Et en fait, nous avons croisé plusieurs regards. Notre idée était d'éviter deux écueils. Une surspécialisation, un colloque qui finalement n'aurait intéressé que des universitaires et des spécialistes. Il y a des colloques qui sont formidables comme ça, mais ce n'était pas notre idée. Et l'autre écueil à éviter, c'était le nivellement vers le bas. Donc là, d'emblée, on l'évitait. Et effectivement, nous avons invité en fait des intervenants qui étaient capables de parler des différents aspects de la vie de Chanson. Nous aurons le plaisir de recevoir Micheline Cellier et Catherine Veil, qui proposeront en fait une sorte de parcours de la vie de Chanson, plus particulièrement du premier roman publié en 1925 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis nous aurons Patrick Cabanel qui va faire une étude comparée, et c'est une judicieuse idée, entre Le Puy des Miracles de Chanson et La Peste de Camus. Deux romans sur l'occupation.
Et c'est important parce que justement, beaucoup de gens pensent que André Chanson est un écrivain régional, mais pas du tout. Et c'est vraiment un écrivain universel.
Absolument, absolument. Je pense qu'on aurait tort de le limiter au régionalisme, etc. C'est vrai qu'il est ancré dans des racines cévenoles, mais il aborde des sujets.
Ça s'adresse à tous.
Ça s'adresse à tout le monde. Il aborde des sujets qui sont vraiment universels. Et on le voit d'ailleurs, on le verra très certainement avec le troisième intervenant qui parlera justement, le quatrième intervenant, qui parlera, Maxime Berge, qui parlera justement de chansons après-guerre. Et chansons après-guerre, il dira Le monde est ma paroisse. Il donnera énormément de conférences à l'international. Et entre Patrick Cabanel et Maxime Berge, nous avons Peter Thame, qui lui aussi reviendra sur Le Puy des Miracles, qui a été vraiment le roman de la maturité dans l'œuvre de Chanson.
Oui, en disant qu'il avait refusé de publier pendant la guerre, mais il n'avait pas arrêté d'écrire. Oui. Et c'était vraiment une prise de position morale. Hein. C'est-à-dire, tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a l'occupation, je ne publie pas.
Absolument.
C'est assez extraordinaire.
Il ne voulait pas se compromettre. Et avec un risque important, c'est-à-dire le risque d'être oublié, c'est ce qui lui est arrivé. Mmh. C'est-à-dire que à la fin de la guerre, quand il revient dans le milieu littéraire, eh bien, il se rend compte, stupéfait, qu'il a été oublié, voire même un peu effacé.
L'époque a changé. Hein,
l'époque a changé.
Guerre,
et puis il avait eu des inimitiés. Hein,
bien sûr. Alors, vous parliez de son premier roman, c'est Roux le bandit, et oui. Ça me permet de reparler des éditions Alcide, puisque c'est que les jeunes lisent peut-être un peu moins. Donc, mettre Roux le bandit en BD, c'est une bonne initiative, et l'auteur sera là dans la deuxième journée, je crois. Peut-être.
Tout à fait, à
16 heures. Mais je vous ai interrompu, pardon.
Non, la transition est parfaite. Effectivement, la fin de la première journée, nous aurons une présentation de la bande dessinée Roux le bandit par ses auteurs et puis par l'éditeur. Et je trouve que c'est une judicieuse idée là aussi de mettre en bande dessinée Roux le bandit. D'autant que, alors moi j'ai été assez épaté par les dessins, il y a un véritable rythme et il y a un travail sur la couleur. Un vrai travail sur la couleur, c'est-à-dire que l'intrigue, la tension, les couleurs changent en fonction de tout cela.
Non, c'est un très très bel hommage et c'est vrai que je crois que Catherine Veil et Micheline Cellier me disaient il faut commencer à lire Chanson en lisant Roux le bandit. Pour elle, je crois que c'est pour vous peut-être aussi.
Oui, moi j'ai commencé par Roux le bandit. Alors non, en réalité j'ai commencé par L'Égoile. Je n'étais pas encore arrivé à Nîmes et j'ai lu beaucoup de choses en fait avant d'être affecté ici. J'ai lu beaucoup de choses sur Nîmes et puis sur le Gard, sur les Cévennes. Et dans mes lectures, il y avait L'Égoile. Après, j'ai attaqué avec Roux le bandit.
Et là, je suis moi en train de lire Le Chiffre de nos jours, qui est sa biographie, qui est une grande densité. Et c'est vrai qu'en plus d'une biographie, on peut lire ce livre, quoi, qui... on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Alors, la seconde journée.
La deuxième journée, eh bien...
Du colloque, pardon, je rappelle.
Nous retrouverons Catherine Veil qui nous parlera. Là, ça va être une période de... Ça va être un moment de témoignage personnel où Catherine Veil va nous parler, en fait,
de son grand-père.
C'est-à-dire la dimension familiale. C'est-à-dire une partie de ce que nous, on ne connaît pas. On est extérieur à tout ça et ce qu'on ne connaît pas en lisant simplement ses romans. Puis, il y aura un court-métrage sur les mémoires de guerre du Louvre. Il va durer une quinzaine de minutes. Et ensuite, nous verrons deux autres aspects dans la carrière de chanson. Son intérêt pour les langues et la façon dont il est traduit aujourd'hui en langue régionale. Et ce sera M. Philippe Règue qui interviendra autour de Mistral, un phare pour chansons. Et enfin, avec Bernard Bastide, nous aborderons les adaptations cinématographiques d'André Chanson. Et à la toute fin, nous aurons une projection du film Tabus. Film Tabus qui a été restauré par un travail mené par Nicolas Veil. Nicolas Veil en fera une courte présentation.
Il sera rentré des... Ah ben non, il est là, c'est François qui est aux États-Unis.
Absolument.
Beaucoup d'émotions hein, quand Nicolas a pris la parole. On sent que leur grand-père a été très important dans leur vie. Donc un colloque très riche, ouvert à tous. On fait de la publicité, hein, ce qu'on appelle de la publicité dans cette émission. Un enrichissement personnel, une réflexion personnelle, ce que le carré d'art, enfin les bibliothèques du carré d'art aiment faire, quel que soit le sujet en fait.
Eh bien nous essayons,
ouais.
Nous essayons, quels que soient les sujets, quelles que soient les actions culturelles que nous menons. Oui, effectivement, c'est à la fois s'adresser à différents publics, et puis notre accueil reste inconditionnel. Ça fait partie de nos vocations de bibliothécaire.
Mais merci à vous, Eddy Noblet. Merci à toute l'équipe, hein, tous ceux qui ont travaillé pour cette exposition. Rendez-vous au colloque, donc je rappelle, le 24 et le 25. Une autre émission itinérance avec Catherine Veil et Micheline Cellier, et puis je pense d'autres émissions avec les invités du colloque. Comme ça, on ne peut pas ne pas connaître André Chanson.
Merci Sylviane.
Merci à vous.
Avec les gens.